Ce matin, je vous propose de lire quelques passages dans le livre de Jean. Ah, pourquoi ces passages? J'ai lu un lectionnaire, il proposait ces textes de Jean. Et parallèlement à ça, j'ai eu aussi des discussions avec les uns et les autres. Et j'ai perçu chez beaucoup de personnes dans l'Église une conscience aiguë de vivre le temps qui précède vraiment le retour du Christ. Et j'ai trouvé intéressant de prendre ces textes qui sont les derniers enseignements que Jésus donne juste avant d'être arrêté. J'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. Quand on sait qu'on va mourir, chaque parole compte, hein. Il y a une espèce d'urgence dans ce qu'on dit. On va dire les choses les plus importantes. Et j'ai lu ces textes avec ce regard-là, avec cette attention-là, de me dire, ben voilà, Jésus, il dit ce qui lui semble le plus important, là, dans l'instant présent, pour ses disciples. Il annonce sa mort, donc il sait qu'il va mourir. Ses disciples savent aussi, plus ou moins, je ne suis pas sûre qu'ils l'ont complètement compris. Et Jésus s'inquiète pour ses disciples, il se dit, mais... Il sait très bien qu'ils vont être complètement secoués, ébranlés parce qu'il les attend, ce qui va leur arriver. Et il veut les encourager, il veut les prévenir. Il veut leur montrer le cap pour qu'ils résistent le moment venu, qu'ils restent fidèles aussi à leur mission. Alors j'ai appelé ma prédication ce matin le testament de Jésus. Est notre héritage. L'idée de ces dernières paroles, hein, de ces dernières volontés, qui sont comme un testament, et puis de ce qu'il nous donne, qui est notre héritage. Au chapitre 14, verset 30, Jésus dit, « Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient. » Et direct après, il enchaîne au chapitre 15 avec le texte de Jésus qui est la vraie vigne. Je vous propose de le lire, chapitre 15, versets 1 à 12. C'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, et demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un texte qui est bien connu. Je l'avais déjà évoqué, je ne sais pas si vous en souvenez, cet automne, hein, en parlant d'être connecté au Christ, hein. Ce texte qui nous parle de ce lien très très fort du cep et des sarments. Mais je crois qu'il a quelque chose à nous dire encore ce matin. On n'arrive pas au bout d'un texte en le lisant que quelques fois. On a à le méditer. Et ce texte, il nous rappelle l'importance cruciale du lien au Christ pour notre vie chrétienne. C'est de lui que vient la vie. C'est par le lien avec lui qu'on peut avoir des fruits. Et sans lui, on ne peut rien faire. Fabrice Chevalier nous a rappelé la semaine dernière que notre ego humain, il nous pousse à vouloir faire les choses sans Dieu, tout seul. Il nous pousse aussi à penser savoir mieux que les autres, et des fois même mieux que Dieu. Ça se manifeste pas seulement chez les non-croyants, aussi chez les croyants. L'Église de Corinthe en est un exemple. Mais Jésus, lui, il n'encourage pas à l'indépendance. Lui, il encourage au lien. Il dit même qu'on peut reconnaître celui qui est lié à lui par les fruits qu'il porte. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est ces fruits ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, le texte ne le précise pas vraiment. Et puis moi, d'office, j'avais interprété ça en me disant, les fruits, c'est les personnes qui viennent au Christ par notre témoignage. Et en lisant plus attentivement ce texte, j'en arrive à une autre conclusion. Je pense que ce n'est pas exactement de ça dont parle Jésus ici. Au verset 10, il nous dit « J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. » Cette façon de lier l'amour et l'obéissance, elle peut nous surprendre, mais elle est quand même typique de ce que Jésus enseigne. Il le dit de nombreuses fois. Et cette vie, donc ces fruits, viennent de ce lien au Christ. Et je crois que c'est pas que ce lien, c'est pas que la pratique spirituelle. Des fois, instinctivement, on a envie de mettre là le lien au Christ, parce que c'est quand je pense à lui ou quand je prie ou quand j'aime simplement Dieu. Ici, Jésus dit que ce lien, il s'entretient par l'obéissance. On n'aime pas tellement ce mot, mais ma foi, on ne peut pas choisir ce que Jésus dit. Et si ce n'est pas très clair, il le redit très clairement au verset 17, il dit « Ce que je vous commande, des fois que vous n'avez pas compris, c'est de vous aimer les uns les autres. » Facile, un seul verset, on n'a peut-être pas à être surpris, c'est quand même le premier commandement, ou le deuxième, « Aime ton prochain comme toi-même » qui est repris ici, « Vous devez vous aimer les uns les autres, voilà mon commandement. » Et ça reprend un peu ce que Paul développe dans les Galates, chapitre 5 au verset 22. Peut-être on peut le voir quand il parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire le fruit de l'action de Dieu en nous. C'est bien de ça dont on parle dans ce texte, la vie de Dieu en nous. Qu'est-ce que c'est le fruit ? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ça, c'est des fruits qui montrent que Dieu agit en nous et qu'on est lié au Christ. Et c'est ça qui a la gloire de Dieu. Dans ce texte, il dit, mais ça glorifie Dieu que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ça, ces fruits. C'est des choses qui sont belles et qui montrent que Dieu agit en nous. Parce que clairement, on a besoin de Dieu pour tout ça. Voilà un des grands enseignements que Jésus laisse dans ce chapitre 15 de Jean. Dans la suite du texte, Jésus va prendre le temps d'avertir ses disciples de ce qui va leur arriver. Et tout spécialement, les avertir, ben, votre prédication, elle ne va pas être bien accueillie. Hein. Vous allez être rejeté, rejeté des Juifs. Vous allez être même excommunié. Peut-être que nous, ça ne nous choque pas, mais pour les disciples, c'était quelque chose d'affreux d'être jeté dehors des synagogues de leur frère de foi. Vous allez être même rejeté de vos propres familles. Vous allez être même persécuté, mis à mort. Certains vont devoir fuir. Donc, voilà ce qui les attend. Et pourquoi est-ce que Jésus leur dit tout ça? C'est pas qu'il aime annoncer les mauvaises nouvelles. Son intention, il l'explicite hein, au verset 16, non, au verset 1 du chapitre 16, directement à la suite. Il dit, je vous ai dit ces choses pour que vous ne perdiez pas la foi. Pour les disciples, leur monde, il va s'effondrer. En plus de tout ce que j'ai dit, Jésus n'est plus là, hein, il est mort. Et pour Jésus aimerait qu'ils restent dans la foi, qu'ils ne perdent pas confiance en Dieu. Que tout ça, ça les ébranle pas au point de se dire mais je me suis trompée, Dieu est pas Dieu. Dieu peut pas maîtriser toute chose s'il nous arrive tout ça. Et pourtant, Jésus les avertit, dit oui, ça va arriver, mais ne perdez pas la foi, restez fidèles. Je suis quand même maître de l'histoire, je sais ce qui va se passer. Et plus loin, au verset 32, il annonce qu'ils vont l'abandonner, hein, que tous ses disciples vont l'abandonner, vont laisser tout seul. Et il ajoute, je vous ai dit cela, de nouveau, il explicite son intention, pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Donc, Jésus, il annonce toutes ces choses, pas pour satisfaire leur désir de connaître l'avenir, ça c'est quelque chose qui est très humain, hein. On a envie de savoir ce qui va se passer, il n'y a qu'à voir le succès des horoscopes, des diseuses de bonne aventure, etc. On a envie de savoir ce qui va se passer. Mais Jésus, ce n'est pas ça qui l'intéresse vraiment. Il veut que ses disciples restent fermes dans leur foi, dans leur confiance. Et il leur dit, soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Alors, je crois qu'on peut vraiment s'approprier ces paroles. Certes, on n'est pas les disciples de Jésus directement, on est des croyants qui ont cru par la suite, mais on vit aussi cette période finalement en attendant le retour du Christ. Et Jésus nous laisse aussi ça pour nous. Soyez courageux, j'ai vaincu le monde, en attendant qu'il revienne et que les souffrances disparaissent. Hein. Après avoir parlé du cep et des serments et de ce qui va venir, Jésus, il va avoir au chapitre 17 une prière. Il va prier pour ses disciples, c'est une longue prière où il intercède pour eux. Il demande à Dieu de les garder, de les aider aussi. Et on va lire une partie de ce texte à partir du verset 20, 20 à 23, où on est directement, nous, croyants, non-juifs, incorporés à cette prière, puisque Jésus dit, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. » Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Et moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette prière, elle est très frappante, hein, où Jésus intercède avec beaucoup d'insistance pour l'unité des croyants. Et ce qui me frappe dans ce texte, c'est qu'il compare cette unité à l'unité qu'il y a dans la Trinité même, hein, entre le Père et le Fils. Il met les croyants là au milieu. Je crois que vraiment c'est quelque chose de très important dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus, que l'unité des croyants, et ce n'est pas juste le dada personnel de quelques chrétiens. S'il prie pour cette unité-là, c'est qu'elle a, elle a un sens très fort et qu'elle a un but aussi. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, hein. Cette unité, peut-être si je reviens un petit peu en arrière, pourquoi est-ce qu'il y a unité? C'est d'abord parce qu'il y a un lien avec le Père et avec le Fils par le Christ. On en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le même Sauveur qui nous a fait entrer dans la famille, qui nous a adoptés. Et du coup, on est tous en lien avec le Père et le Fils. Et donc, on est dans la même famille. Et cette unité, ben, elle découle vraiment de Dieu. Elle a un but, une conséquence, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est pas rien, hein? C'est un témoignage pour le monde, pour les non-croyants, que oui, Jésus est bien le Messie. Donc ce n'est pas anodin l'image que l'unité des chrétiens porte au monde. L'unité, ben, c'est un défi pour l'Église. Ce n'est pas pour rien que Jésus intercède pour ça, c'est que c'est difficile. C'est un défi. Aujourd'hui, ça l'a toujours été. Peut-être pour revenir aussi à ce que Fabrice disait la semaine dernière, pourquoi c'est un défi? Ben parce que ça va à l'encontre complètement de notre ego de travailler pour l'unité. Parce que des fois, je dois oublier mon propre intérêt pour le lien, pour privilégier finalement le lien avec le Père et le Fils et mes frères et sœurs dans la foi. Parfois, notre ego, il préfère avoir nous raison, et puis tant pis les autres ont tort. Dieu nous appelle à privilégier le lien, et puis d'avoir raison finalement, c'est pas important, c'est le lien à Dieu qui est important. C'est Dieu qui a raison, c'est pas nous. Alors, si j'essaie de dire ça avec d'autres mots, je pense que l'unité entre les croyants, elle est le signe du lien avec Dieu le Père et avec le Sauveur. Et puis, qu'elle est témoignage que Jésus est vraiment le Messie, qu'il est venu réconcilier Dieu avec les hommes. Porter les fruits de l'Esprit dans notre vie, eh ben, je crois que c'est notre mission. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi sont les conséquences de la vie de Dieu en nous. On a prié tout à l'heure dans le chant, hein, sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur, c'est vraiment ça, hein. Dieu il a besoin de nous sonder pour nous pousser dans ce sens-là et c'est l'action de son esprit. Alors, ces fruits et cet amour que Dieu met en nous, hein, ça va à l'encontre de notre ego humain. Et on a un combat qui n'est pas fait une fois pour toutes, hein, mais qui est notre combat de tous les jours, qui s'appelle la sanctification. C'est Dieu qui nous pousse à ressembler au Christ. Et ça, ces fruits, ce travail, c'est les signes du royaume de Dieu. C'est de ça dont parle Jésus aussi, hein, dans le sermon sur la montagne, hein, dans beaucoup d'autres enseignements, qui montrent l'action de Dieu dans les vies comme action du royaume de, comme signe du royaume de Dieu. Les croyants, ils vont pas être épargnés par les difficultés, hein, ce texte nous le dit, et puis notre expérience et l'histoire de l'Église nous le montrent aussi. Mais Jésus demande à ses disciples d'être courageux, et il leur laisse beaucoup de dons, d'héritages, si vous voulez. Et dans ce texte, si je prends que le chapitre 14 au 17, j'ai relevé plusieurs choses. Finalement, que Jésus dit, je vous le donne. Voilà, ça c'est pour vous. Et je vous invite à nous prendre aussi ça, cet héritage ce que Dieu nous donne. Parce que c'est précieux. Et on a prié plus de toi. Ça c'est ce que Dieu nous donne. Donc prenons-le. Et la première chose... Enfin, si on peut parler d'une chose que Jésus donne, ça va être, chapitre 14, verset 26, le Saint-Esprit. Ce n'est pas anodin, Dieu en nous. Et ça, c'est quand Christ part que le Saint-Esprit peut venir, qu'il peut venir agir dans nos vies. Il nous dit que le Saint-Esprit nous permettra, sera là pour nous aider, pour nous enseigner et pour nous rappeler les paroles du Christ. Suite à ça, au chapitre 14, verset 24, Jésus dit, je vais peut-être le lire dans la version que j'avais relevée, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Un deuxième cadeau, la paix, qui nous permet, qui est une paix extraordinaire, hein, qui ne dépend pas des circonstances, qui nous permet de ne pas être inquiets. Au chapitre 15, verset 7, il y a une promesse qui est liée à cette obéissance au Christ. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez, et vous l'aurez. C'est cool, hein? C'est une sacrée promesse, ça, hein? Dieu va répondre à nos prières. Chapitre 15, verset 11. « Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. » Non seulement la paix, mais aussi la joie. Chapitre 16, verset 33, « Soyez courageux, j'ai vaincu le monde. » Il nous donne le courage. Voilà, je trouve que c'est un bel héritage qu'on a là. Eric nous parlait aussi des couronnes, de la lumière et de tout ce qui nous attend dans l'autre vie. Là, il y a aussi des choses qui sont pour notre vie d'aujourd'hui, que Jésus nous donne un héritage. Et oui, je pense que c'est important de réaliser à quel point c'est précieux et puis de le prendre pour nous. Alors, je vous invite à un moment de silence pour prendre le temps de s'interroger. Qu'est-ce que je peux recevoir comme héritage aujourd'hui? Sur quoi est-ce que le Seigneur attire mon attention ce matin? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner?